Éternel notre Seigneur, nous sommes vraiment reconnaissants pour le beau temps que nous avons eu, pour les moments bénis entre frères et sœurs, les moments où on a pu partager, on a pu se réjouir en toi. Et Seigneur, merci parce qu'on a encore pu approfondir encore un peu plus sur ce thème de la prière collective. Et Seigneur, je te prie que tu puisses me guider à travers le message que je vais apporter ce soir. Je te prie pour que ce ne soit pas un message comme n'importe quel autre message, mais que ce soit, puisse être un message qui impacte les gens, pas par rapport aux souvenirs qu'ils vont en garder, mais par rapport à leur vie de prière, c'est-à-dire que ça puisse avoir un écho peut-être par rapport à une chose qui va être dite dans ce message et qu'ils peuvent garder, que chacun peut garder pour soi. Peut-être ce sera une chose différente pour chaque personne, mais que Seigneur, ce soit une occasion encore de nous réjouir de la richesse, parce que ta parole est tellement riche, il y a tellement de choses à apprendre dedans. Et Seigneur, je te prie encore pour te mettre tout ce que je vais dire, que je puisse être vraiment comme un serviteur qui dispense droitement ta parole de vérité. Et Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui est ici présente, je te remercie pour chaque personne aussi qui nous suit sur Zoom. Et peu importe qu'on soit présent physiquement ou pas, Seigneur, tu es là, tu es partout et tu vis aussi en nous. Et nous avons ce Saint-Esprit qui nous aide à soupir après toi et à dire « Abba, Père ». Et c'est ce Saint-Esprit qui nous aide aussi à te prier comme notre Père, comme on l'a prié tout à l'heure et comme nous l'avons chanté tout à l'heure aussi. Je te prie encore pour te remettre ce moment, cette soirée et tout ce qui va se passer entre tes mains. Et je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je ne sais pas si en ce moment, vous savez ce qui se passe au niveau sportif en France. Il y a un événement qui s'appelle le Tour de France. Le Tour de France, je ne sais pas vous, mais personnellement, j'ai un peu de mal à regarder à la télé toutes les étapes du Tour de France. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont regardé le Tour de France à la télé? Est-ce qu'il y a des personnes qui trouvent ça un peu ennuyeux quand même de regarder le Tour de France? Allez, soyez... voilà, merci. La moitié de la salle trouve ça un peu ennuyeux. Et est-ce que ça veut dire que nous n'aimons pas faire du vélo? Pourtant, bah, quand on regarde, voilà, le Tour de France, c'est quand même vachement sympa. On a toutes les étapes, et puis on fait des efforts. Il y a un maillot jaune, on ne sait pas trop comment ça fonctionne entre le maillot jaune, le maillot à poids, le maillot vert, vous savez, tous ces maillots. Et puis on termine sur les Champs-Élysées. Hein. Souvent, c'est un peu la traditionnelle dernière étape. Voilà. Donc souvent, en fait, on retient juste le vainqueur et c'est tout. Pourtant, est-ce que ça veut dire que je n'aime pas le vélo? Est-ce que ça veut dire que vous, ceux qui ont dit « ouais, je trouve ça ennuyeux », vous n'aimez pas le vélo? Eh bien, non, je ne crois pas. Je pense que c'est en participant soi-même. Donc, j'ai quelques exemples de personnes qui ont fait du vélo. Voilà, des personnes très courageuses qui ont fait du vélo et qui ont pris, je pense, du plaisir, comme moi, en tant que, non pas spectateur derrière notre télé, mais en tant que participant. Donc voilà, certains étant plus fatigués que d'autres, comme on peut le voir sur ces quelques photos. Et d'autres qui étaient vraiment très contents d'être tirés par les autres aussi dans le vélo cargo. Voilà. Tout ça pour vous dire que pour la prière, c'est pareil. En fait, pour le culte du dimanche, c'est pareil. Nous nous rassemblons le dimanche pour rencontrer Dieu ensemble, non pas en tant que spectateurs, mais en tant que participants. Alors oui, on essaie de faire des choses. On essaie de rendre le plus participatif. Par exemple, on discute après le culte pendant un goûter. Ça, c'était avant le Covid. On a instauré aussi un moment d'open mic. C'est quelque chose qui est vraiment appréciable. Mais je crois, et c'est ce que dit l'auteur du livre sur la prière, John Onwuchekwa, que c'est crucial que la parole de Dieu demeure centrale dans nos cultes. Et en fait, nous entendons la parole qui est prêchée à travers la prédication. Nous entendons la parole qui est chantée. On vient de le faire, hein. On a chanté Matthieu 6 et Matthieu 5 à un instant. La parole qui est lue pendant la lecture biblique. Et en réponse à cela, eh ben, on fait deux choses. La première, c'est que nous chantons, notamment quand nous chantons des chants comme « Nous te louons », etc., avec nous, la première personne du pluriel. Et deuxième chose, lorsque nous prions. Ça ne veut pas dire que la prédication n'est pas importante, au contraire. Mais si on se contente juste d'écouter la prédication et que de dire que le culte, c'est que ça, en fait, ça reviendrait presque à faire la même chose qu'être spectateur d'un conférencier qui est en train de nous raconter des choses peut-être intéressantes. Et en fait, ce n'est pas ce que Dieu veut faire de nous. Dieu veut faire de nous des participants, des personnes qui participent, qui participent au culte. Voilà. Et aujourd'hui, je pourrais parler de la louange, mais ça serait un autre thème encore, et je pense que ça peut faire l'objet d'un autre message entier. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prière. Comment est-ce qu'on peut participer dans la prière dans le cadre du culte ? Parce que Dieu veut que nous soyons des participants à la prière. Et aujourd'hui, nous allons évoquer 4 types de prières bibliques. Je m'écarte un peu pour voir. Le premier, c'est l'adoration. Le deuxième, c'est la confession. Le troisième type de prière, c'est la reconnaissance. Et quatrièmement, la requête de prière. Je vous avais un peu spoilé pendant les réponses aux questions, à la question de Laura tout à l'heure, mais voilà, c'était un petit trailer, quoi, une petite bande-annonce. Voilà. On y va ? Donc, l'adoration, en fait, ça commence par prier Dieu pour qui il est. Et c'est un véritable honneur. On ne se rend pas toujours compte, mais il faut se rappeler qui est Dieu et qui nous sommes. En se focalisant sur Dieu, on se rend compte qui nous sommes. Et on peut voir quelques exemples d'attributs de Dieu. Donc on voit son omniscience, sa fidélité, sa bonté, sa sainteté, sa douceur, son éternité, sa souveraineté, son amour, sa colère et sa compassion. Et en fait, ce n'est pas du tout une liste exhaustive, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Et donc on a vu que Dieu est fidèle, qu'il tient ses promesses par exemple. On sait que Dieu est saint, qu'il est tellement mis à part. Il ne laisse pas le péché impuni. Et nous savons aussi que Dieu a réglé le problème du péché à la croix grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Et grâce à cela, nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance, mais aussi et surtout avec humilité. L'adoration, c'est vraiment prier Dieu pour qui il est. Et pas seulement pour ce qu'il fait. Je ne dis pas que c'est mauvais de prier pour ce qu'il fait, mais c'est important de se focaliser déjà sur qui est Dieu. Et ça nous aide aussi à prendre du recul et à nous rendre compte que le monde ne tourne pas autour de nous. C'est la citation, on a beaucoup parlé de J.C. Ryle dans les questions-réponses, etc. Cet auteur disait que lorsque nous avons tendance à être trop égoïstes, trop centrés sur nous-mêmes. Mais lorsque nous prions ensemble, nous élargissons nos cœurs, nous élargissons notre vision. Et ce qui est beau, en fait, quand nous prions chacun de ces attributs de Dieu, on ne va pas les citer comme une liste en disant « Ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et merci Seigneur pour tout ça, et hop, c'est fini. » Mais en fait, je vous invite à faire, c'est, par exemple, dans le cadre d'un culte, quand il y a un moment de prière, c'est de les déballer un par un. Vous savez, un peu comme les bonbons. Si on prend tous les bonbons Haribo, qu'on les prend tous, on les déballe tous, et on les met tous dans la bouche, bah, c'est pas top, quoi. Mais si on les prend un par un, souvent on les savoure. Bon, si vous n'aimez pas les bonbons, remplacez ça par des macarons ou voilà, ce que vous aimez le plus. Ça vous permet de savourer tout ça. Et c'est pareil en fait avec les attributs de Dieu, les prendre un par un. Et ça permet aussi d'en aborder certains qu'on a tendance un peu à oublier. Peut-être qu'il y a des attributs que vous voyez là, vous dites « Ah, c'est vrai que je n'avais pas trop pensé à cet attribut de Dieu ». Et enfin, ne prions pas de manière générale, comme je l'ai dit, mais de manière précise. Quand on va dire, prier, par exemple, j'ai beaucoup aimé par exemple, le moment de louange de hier soir. Voilà, on était focus sur la grandeur, la majesté de Dieu. C'était vers cette direction que, je crois, le groupe de louange voulait nous amener. Et voilà, on était centré sur majesté, sur ces chants qui nous centrent sur infiniment grand, sur la grandeur de Dieu. Et ça, c'est beau, je trouve. Voilà. Donc, on peut voir, par exemple, comme attribut de Dieu, comme exemple, on voit son éternité. Le fait qu'il existe d'éternité en éternité. On a par exemple le psaume 90, verset 2, qui nous dit « Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Donc c'est-à-dire que Dieu n'a pas de commencement, Dieu n'a pas de fin, Dieu est toujours, toujours là. Et je reprends une citation, dans le livre, comme Michael l'a fait tout à l'heure, il y a vraiment des super citations, et celle-là, sur l'éternité. Il est sur le trône depuis toujours, on parle de Dieu. Il a assisté à la naissance de tous les mauvais dirigeants de ce monde. Il se souvient d'eux lorsqu'ils étaient bébés. Il sait quel sera le jour de leur enterrement. Il n'est jamais intimidé. Il demeure sur le trône alors que ne font que passer. Sa position est assurée. Il ne prend jamais une décision par crainte que quelqu'un prenne sa place. Il n'est jamais acculé au pied du mur. Ce qui veut dire que nous pouvons être sûrs qu'il n'a pas de raison cachée de nous donner les commandements qu'il nous donne. Waouh ! Nous comprenons mieux cette notion d'éternité grâce à la prière d'adoration. Par exemple, quelqu'un va prier sur « Seigneur, tu n'as pas de début, tu n'as pas de fin, tu existes d'éternité en éternité. » Une autre personne va insister sur un autre côté de cette éternité, etc. Et en fait, quand on est plusieurs à prier ensemble, waouh, on est en train de découvrir, de savourer, de voir à quel point cet attribut de Dieu est bon, en fait, à quel point Dieu est magnifique. Voilà. Un autre attribut, un peu moins habituel, hein, mais il faut en parler aussi, cet attribut, c'est la colère. Alors c'est vrai que, encore une fois, je vais relire une citation, parce qu'il en parle encore mieux que moi. Quand nous le louons pour cela durant le culte, pour la colère de Dieu, merci Seigneur pour ta colère, waouh, c'est bizarre, on ne prie jamais comme ça, mais nous nous souvenons que Dieu est attaché à la justice. La colère de Dieu est toujours liée à la justice. La colère de Dieu n'est pas un handicap, c'est la preuve de sa protection. La colère de Dieu, dirigée contre le péché, nous rappelle qu'il est le protecteur des faibles. Son incapacité à ignorer le péché et la façon implacable qu'il a de punir le mal sont effrayantes parce que nous craignons facilement de devenir l'objet de sa colère. Toutefois, ceux qui trouvent un abri sous la protection qu'il offre à son Fils prennent conscience que la sainteté de Dieu est pour notre protection et non notre punition. Lorsque nous voyons la colère de Dieu comme quelque chose que nous méritions, mais pour lequel Jésus a payé à la croix pour que nous ayons la justice en lui, et bien waouh, merci Seigneur pour ta colère, parce qu'elle est liée à ta justice et liée au fait que tu nous permets d'être justifiés en Jésus-Christ. Donc on peut se poser comme question, quelles applications on pourrait avoir dans le culte? Bah, par exemple, ça pourrait se faire par des prières libres associées à un des chants sur l'un des attributs de Dieu. Par exemple, si on chantait sur la grandeur de Dieu, bah, voilà, les chants qu'on a chantés hier, la majesté, le roi dans sa splendeur, oh Dieu tu es grand, infiniment grand. Par exemple, sur la bonté de Dieu, on a le chant « Tu es bon ». Voilà. Par exemple. Donc de lier finalement la louange avec la prière. Le deuxième thème, c'est ce qu'on appelle la confession. Alors c'est vrai que quand je parle de confession, certains d'entre vous, peut-être, vous pensez à ça. Donc soit on se dit, bon, alors il y a l'Église catholique, on a un prêtre qui écoute au confessionnal, et il y a une queue, voilà, où les gens ne voient pas le prêtre, et confessent leurs péchés. Est-ce que c'est ça, la confession? Pas réellement, en fait. L'adoration collective dont on a parlé tout à l'heure devrait nous mener naturellement et logiquement, une fois qu'on a vu à quel point Dieu est fort, Dieu est mis à part, il est saint, eh bien, on se rend compte que nous sommes loin du compte, parce que nous sommes encore pécheurs. Et la confession, c'est vraiment lié au fait que nous sommes encore pécheurs. Nous restons des pécheurs, nous avons encore besoin de confesser nos péchés. On n'a pas besoin de passer par un intermédiaire, mais lorsque nous confessons nos péchés, on peut le prier soit en seul à seul, directement à travers Jésus. Jésus est le seul intermédiaire que Dieu nous a donné pour lui demander pardon. Il y a ce passage de 1 Jean 1, verset 9, qui nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Et en fait, voilà, on passe par Jésus pour confesser nos péchés. Ça, on peut le faire de manière en étant seul, mais on peut aussi le faire de manière collective. Notamment quand on prie le samedi matin avec Philippe et ceux qui sont là le samedi matin, on a parfois des moments, voilà, où on prie des prières de confession. Et certains d'entre nous, on prend la parole, on prie, et on demande pardon pour un péché particulier. Et je trouve ça vraiment fort. En fait, on se met à nu, en fait, devant nos frères et sœurs. Et en fait, c'est vraiment un moment très très fort, je trouve, dans ces moments de prière. Et si on parle du péché, ben, on est un peu obligé de revenir à d'où vient le péché. On sait que le péché, ça vient de Adam et Ève qui ont mangé du fruit de l'arbre défendu. Ils ont voulu être Dieu à la place de Dieu. Et ils ont pensé qu'ils allaient y parvenir en désobéissant à Dieu et en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sauf que, ben voilà, il y a ce mal qui est entré dans le monde, ce péché. Et Genèse 3,15 nous prépare le terrain pour le plan de salut et de pardon de Dieu. Donc on a ce passage de Genèse 3, verset 15. « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance. » Donc il parle au serpent, au diable. « et sa descendance, la descendance de la femme. Celle-ci, la femme, la descendance de la femme, t'écrasera la tête et tu blesseras le talon. Cette descendance de la femme, c'est in fine, à travers la progression depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ qui va vaincre le diable, qui va vaincre la mort, parce qu'il va être ressuscité, il va être approuvé par Dieu, et siège maintenant à la droite du trône de Dieu. Et nous attendons son retour, on en a parlé tout à l'heure. Nous attendons que son règne vienne, nous attendons que Jésus revienne. Et c'est vrai que des fois, on a un peu tendance à l'oublier, on se dit, je vis ma vie, je suis un peu dans mon confort, mais waouh ! Mais en fait, Jésus va revenir, et finalement, ça change quoi que je gagne 100 euros en plus, ou voilà, il y a des trucs, des fois, on est tellement dans nos calculs, mais même notre argent, c'est Dieu qui nous l'a donné, en fait. On est juste des gestionnaires, et quand on va partir, bah, on ne pourra rien faire avec notre argent, on va le laisser à la personne après nous. Voilà. Et on sait que par Jésus, Dieu a pris des dispositions pour que le coupable à la fois soit puni et pour que son peuple soit pardonné. Et tout ça sans compromettre sa sainteté. C'est vraiment magnifique comment la croix est magnifique. Comment est-ce que Dieu répond au problème du péché? Et on le voit dans ce passage, Romains 3, versets 21 à 26. « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. » Donc, vous voyez, on parle de justice, on parle de patience, on parle de sa colère. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Un autre exemple qu'on ne va pas lire, c'est dans Luc chapitre 15, versets 17 à 19. Vous vous rappelez la parabole du fils prodigue, le fils prodigue qui a dilapidé tous les biens de son père, il a demandé son héritage, il allait dilapider tous ses biens. Et à un moment donné, il n'avait plus rien, et il s'est souvenu de la bonté de son père, et à cause de ça, il est revenu vers lui et il a confessé son péché. C'est exactement ce qui se passe avec l'adoration. On se focus sur Dieu, on se rend compte qu'on n'est pas du tout Dieu, on est loin du compte, et ça nous amène à cette étape importante qui est la confession. Et ce qui est fort aussi, c'est que lorsque d'autres membres confessent un péché qui est semblable au nôtre, eh bien, on peut se dire dans notre cœur, on n'est pas juste dire ouais, moi aussi, mais on peut dire dans notre cœur, waouh Seigneur, moi aussi. Et trop souvent, peut-être parfois, on se dit, bah ouais, c'est pas vraiment un péché, ce péché-là dans ma vie. Mais des fois, on va voir dans la vie des autres, on va dire, waouh, c'est un grand péché qu'il a, celui-là. Et en fait, quand on écoute les autres qui confessent les mêmes péchés que nous, nous rendons compte en fait que de la gravité de ce péché, à quel point nous avons placé notre espoir ailleurs qu'en Dieu, pour notre propre bonheur, notre égoïsme. Et pour finir, je donnerai les quatre caractéristiques d'une église, d'une communauté qui confesse systématiquement son péché. On va voir que c'est une église heureuse, une église en croissance, une église bienveillante et une église humble. Donc une église heureuse, parce que la confession devrait nous mener à la joie. Mais souvent, nous avons peur d'explorer les ténèbres de nos cœurs. Et on se dit, ouais, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais on a des exemples dans la Bible. Regarde le psaume 32, le psaume 51 qui sont écrits par David, qui sont vraiment des magnifiques exemples de joie dans le pardon en Dieu. Parce qu'une fois que le psalmiste il a confessé son péché, il appelle tous ceux qu'il connaît à prendre part à ce pardon qu'il a trouvé en Dieu. Alors on a un exemple dans le psaume 32, verset 11. « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. » Et on a le psaume 51, verset 16. « Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. » Donc une église qui confesse son péché est aussi en croissance. Parce qu'on peut se repentir ensemble, et le fait de se repentir tous ensemble, de confesser nos péchés, c'est un grand moteur pour l'évangélisation. On en a parlé un peu tout à l'heure. Et ce pardon de Dieu, on ne va pas le garder pour nous. C'est tellement merveilleux, c'est la meilleure nouvelle qu'on puisse avoir. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et lorsque nous prions de manière collective pour la confession, en confessant nos péchés, l'évangile, il est appliqué personnellement parce qu'on reconnaît qu'on est pécheur mais que Jésus a payé le prix. Et en même temps, cet évangile, il est annoncé publiquement à travers nos prières dans le culte. Et une telle église, une telle communauté qui partage ce qu'elle vit dans cette liberté avec les autres, C'est un peu comme si elle disait « Eh, venez, venez, goûtez et voyez le même pardon que celui que nous goûtons et que nous voyons. Venez goûter et voyez ce que nous goûtons et voyons comme pardon. » Une caractéristique de l'Église qui confesse son péché, c'est qu'elle est bienveillante. Parce que l'Église se remémore constamment qu'elle est composée de personnes qui sont encore pécheurs, pécheresses, qui ont quotidiennement besoin du pardon de Dieu. Et c'est comme tout à l'heure, on a prié, hein, donne-nous notre pain quotidien. On a besoin du pardon aussi quotidien de Dieu. On a besoin de ce pain quotidien de Dieu. C'est pas, hop, j'ai prié une fois et c'est bon jusqu'au l'année prochaine, je reviens à Noël. C'est vraiment chaque jour. C'est pas juste le dimanche, c'est chaque jour notre foi. Ça se vit tous les jours. Et lorsque nous confessons nos péchés encore ensemble, nous faisons preuve de compréhension et de patience quand d'autres pêchent contre nous. Mais en plus, nous attendons à ce que cela arrive. En fait, je pourrais parler pendant des heures et des heures des fois où je me suis senti un peu offensé parce que j'avais des attentes vis-à-vis de quelqu'un, mais voilà, on pourrait même faire, je pense, un petit message sur les attentes, est-ce que c'est biblique, c'est pas biblique, etc. Mais c'est pas la question aujourd'hui, mais voilà, c'est un autre exemple. Notre demande de pardon, c'est pas un prérequis à l'offre de pardon de Dieu. C'est-à-dire que d'un côté, on ne devrait pas exiger de la personne d'avoir des excuses avant d'offrir notre pardon à la personne qui nous a offensés. C'est mieux qu'elle vienne demander pardon, mais Dieu nous appelle à pardonner celui qui nous a offensés avant même qu'il vienne demander. Peut-être qu'il ne viendra jamais de demander pardon, mais Dieu nous appelle à pardonner celui. Dieu nous demande de pardonner aux autres parce que lui aussi nous pardonne en fait. Voilà. Et lorsque nous confessons publiquement, eh bien, on est en train de chasser tout ce qui est mauvais, comme la jalousie, les querelles, la rivalité, etc. On est en train de dire, écoute, je ne suis pas mieux que toi, quoi. Et ça, c'est une communauté qui est bienveillante et qui est paisible. Quatrièmement, cette communauté, cette église, c'est une église qui est humble. La confession, elle nous ramène les pieds sur terre, elle nous ramène à la réalité. Nous sommes bien plus faibles que ce que nous pensons. Et moi, le premier, en fait, je me tiens devant vous, mais je pense que voilà, je ne suis pas du tout meilleur que vous. Et si les responsables de l'église, par exemple, confessent leurs péchés publiquement, les autres membres qui voient ça, ils ne voient plus leur propre péché comme unique, propre à eux-mêmes. En fait, les autres membres se rendent compte que toi aussi, tu passes peut-être par les mêmes tentations que moi. Et ils se rendent compte que ça peut toucher même les responsables. Et en fait, le fait d'avoir une confession collective, ça nous met tous sur le même pied d'égalité. Écoutez, les gars, ou les sœurs, les frères et sœurs, on est tous pécheurs. On est tous encore pécheurs. Mais Jésus-Christ nous sauve par sa grâce. Et Jésus nous pardonne encore si nous revenons à lui, si nous repentons, si nous confessons nos péchés. Et ça, c'est un puissant témoignage, à la fois pour les chrétiens et à la fois pour les non-chrétiens. Alors, comment appliquer tout ça? Dans le cadre d'un culte, par exemple, on pourrait avoir, plutôt vers le début, un moment de prière et de confession libre, après, par exemple, un chant de repentance. Alors, ça implique aussi d'apprendre à connaître plus de chants de repentance, parce que si vous êtes comme moi et que vous êtes assez limité, vous dites, ok, je connais le chant « Pardon, Seigneur, pardon » ou l'autre chant du GM2 qui s'appelle « Pardon ».« Pardon, pardon d'avoir jugé, pardon ». Voilà, en mineur en plus. Hein. Où il y a le chant de « J'élève » de Sam Olivier. « J'élève mon cœur ». Voilà. Donc finalement, on se dit « Ah, il n'y a que trois chants. Ah oh, bon, vas-y, on va faire d'autres chants ». Mais en fait, il y a tellement d'autres chants sur la repentance que nous n'avons pas encore, explorés. Et je pense que c'est un peu un challenge que je suis en train de nous mettre à nous, les leaders de louange, c'est que si on veut instaurer des moments de confession pendant le culte, il va falloir aussi apprendre à connaître d'autres chants de confession. Voilà. Troisièmement, suite à l'adoration, suite à la confession, naturellement, ça devrait nous amener à « Waouh, merci Seigneur, la reconnaissance !» Voilà. Et trop souvent, on se dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi moi? En gros, pourquoi tu n'as pas répondu à mes prières de la façon dont moi, je voulais que tu répondes? Mais en fait, si on était vraiment humble, on dirait plutôt, ouah, Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que tu as été si bon envers moi? Je ne mérite pas tout ça. Je ne mérite aucun de tes dons. Soyons reconnaissants pour ces grâces envers nous. À la fois la grâce du salut en Jésus, également toutes les autres bénédictions. Et je rappelle encore une fois que la grâce, c'est le fait de recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas. Et n'hésitons pas à remercier Dieu pour des choses précises. Ça va favoriser l'humilité, la gratitude dans nos cœurs. Et nous rendrons compte que nous sommes mieux traités que ce que nous méritons. Et au contraire, si c'est normal pour nous d'être dans le confort, malheureusement, nous allons devenir ingrats en se disant « Bah, c'est normal, hein, Dieu m'a béni, hein, je mérite, voilà, j'ai bien travaillé. » Et en fait, non. Je me rappelle cette parabole qui dit, où Jésus dit « Bah, quand le Seigneur il revient, bah, les serviteurs ils disent « Seigneur, nous n'avons que fait que notre travail. » Et je pense quelque part, c'est ce qu'on devrait avoir. Mais en même temps, Dieu nous bénit. Et on ne le mérite pas forcément, mais Dieu nous bénit et c'est de la grâce. Et je vous invite un peu à prendre l'exemple de comme un peu cette pièce de monnaie qui nous empêche de voir la lumière quand on la met trop proche de notre œil. Et cette pièce, ça représente notre problème actuel, peut-être un de nos péchés qui nous empêche de voir les choses comme ce que Dieu veut qu'on le voit. Et le fait de prier avec reconnaissance, d'être moins aigri ou ingrat, ça nous permet d'enlever cette pièce et de voir la lumière. On voit le soleil, en fait, on voit le Seigneur, en fait. Voilà. Bon, je ne dis pas ça pour faire l'exercice avec le soleil et tout, j'ai pas envie que vous finissiez avec les yeux brûlés et tout, mais voilà, c'est une image. Hein, voilà. En termes d'application, on pourrait, par exemple, dans le cadre du culte, avoir une succession de prières courtes, avec une prière de une phrase chacun, par exemple, bah, merci Seigneur pour la vie que tu me donnes, merci Seigneur pour ma famille, merci Seigneur pour mon église, merci Seigneur pour mon travail, merci Seigneur pour la grâce que tu me donnes. Voilà des petites prières comme ça, et on pourrait avoir au moins 10 personnes successives qui vont prier, et on est participants, quoi. C'est vraiment quelque chose de riche, voilà. Ah, voilà. Et on passe quatrièmement à la requête de prière. Une fois qu'on a adoré Dieu pour qui il est, qu'on a confessé nos péchés, qu'on a prié avec reconnaissance, bah, maintenant on est prêt à lui faire part de nos requêtes de prière. Pourtant, trop souvent, on zappe un peu les trois étapes, et moi souvent ce que je fais un peu, je ne sais pas si vous ça vous arrive, on zappe les trois étapes et on va directement à la requête de prière. Mais si nous n'avons pas adoré au préalable Dieu, nous ne nous rendrons pas forcément compte qu'il est souverain, c'est-à-dire qu'il peut tout contrôler, par exemple. Si on a envie de prier pour quelque chose de presque impossible, mais si on ne se rend pas compte qu'il est souverain, bah, en fait, notre prière, ce n'est pas la même. Si nous n'avons pas confessé un péché particulier qui est peut-être en train de me bloquer, parce que je ne suis pas en paix, au moment où je vais prier, bah, il faut d'abord que je confesse. Et si je n'ai pas confessé, bah, je ne suis pas à l'aise dans ma prière. Et si je n'ai pas encore remercié Dieu pour une de ses bénédictions, bah, je risque de croire que Dieu doit répondre à ma requête parce que je le mérite. Et là, en fait, je suis en train de passer complètement à côté de la grâce, de recevoir quelque chose que je ne mérite pas. Donc, Mickaël, tout à l'heure, a parlé du fait que, je ne sais plus si c'était Mickaël ou Philippe, mais qu'on a accès à beaucoup, beaucoup d'informations. Les médias, les réseaux sociaux. Et ça peut être des informations qui sont lourdes, qui peuvent nous peser. Par exemple, on va parler des exactions policières, comme récemment aux États-Unis, la loi qui a pas de valeur, enfin, qui est contre les valeurs chrétiennes, une élection qui va diviser, des martyrs, une fausse couche, un cancer d'un ami, etc. Et en plus de toutes ces nouvelles qu'on apprend par Facebook, par les nouvelles, etc., eh ben, on a en plus nos problèmes personnels. Et en fait, la requête de prière aussi, c'est de savoir nous reposer en Dieu parce que cela le glorifie. Dieu est glorifié quand nous nous reposons sur lui. On le voit dans Nahum, chapitre 1, verset 7. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Les requêtes de prière permettent de déposer nos fardeaux à la croix, devant Dieu, de nous reposer en lui. Et Dieu peut nous donner une paix qui surpasse toute intelligence. On le voit dans Philippiens 4, verset 6 à 9. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Waouh ! Une paix qui surpasse toute intelligence. Ça, on peut le demander à Dieu. C'est pas impossible, on peut l'avoir. Malgré tout ce qui se passe, je peux avoir cette paix qui vient de Dieu. Parce que ma paix ne dépendra pas des circonstances. Ma paix dépend de qui je suis en Dieu, parce que je suis son enfant, parce que Dieu est mon Père, comme on l'a prié tout à l'heure. Donc, n'ayons pas peur de prier avec insistance, avec persévérance, pour des sujets précis. Ça peut être par exemple la guérison, ça peut être d'autres choses. Mais j'ai ce passage que je voulais aussi partager avec vous de Luc, chapitre 18, verset 1 et ensuite verset 7 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et c'est cette veuve qui va voir le juge inique, le juge qui est injuste, et qui ne veut pas trop répondre à la veuve, mais la veuve, à force d'insister, bah, il répond à la prière, enfin, il répond à sa requête. Et Jésus conclut en disant « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et ça, c'est une question qui peut nous challenger. Waouh ! Jésus va revenir, on sait qu'il va revenir, on ne sait pas quand il va revenir. Il y en a plein qui disent que c'est bientôt, il y en a qui disent que ce n'est pas du tout bientôt, mais on sait que c'est un jour où Jésus va revenir et peut-être on sera encore là. Et qu'est-ce qu'on va dire à Dieu ? Trop souvent, malheureusement, nous doutons de la capacité et de la volonté de Dieu d'accomplir de grandes choses dans nos vies. On le voit à travers notre propre point de vue au lieu de le voir selon ce que dit sa parole. Alors que Dieu, il est tout-puissant, omniscient, omnipotent, souverain. Donc on est en train de dire que Dieu, il sait tout, il peut tout, il contrôle tout, il est tout-puissant. Rien ne lui est impossible, rien n'est impossible à Dieu. Donc lorsque nous demandons des choses difficiles, des grandes choses dans le nom de Jésus, en fait, on est en train de mettre en avant la grandeur de Jésus. Parce que, en fait, quoi qu'il arrive, soit Dieu répond par la négative, et à travers cela, nous apprenons de cette expérience. Et nous avançons dans la maturité spirituelle. Ok, Seigneur, tu n'as pas voulu ça, tu as fermé la porte. Ok, c'est un mal pour un bien, je vais comprendre plus tard pourquoi tu as fermé cette porte. Mais quand Dieu répond par l'affirmative, cela montre aussi qu'il peut répondre bien au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Vous voyez ? Donc dans les deux cas, on est gagnant, parce que dans les deux cas, on se rapproche encore plus de Dieu. Mais en aucun cas, quand on demande quelque chose, bah, on peut se dire, oh, on le mérite. Jamais, jamais, jamais. Donc comme application, dans le cadre du culte, on pourrait prendre, par exemple, quelques sujets de prière de l'Église. C'est ce qu'on fait, hein, ce qu'on liste, des situations en France et dans le monde. Et on pourrait, par exemple, prendre un temps pour prier pour ces sujets. Et le fait d'afficher ces sujets sur une slide, ça permet de ne pas nous éparpiller dans toutes les prières possibles. Et voilà, on se focus. Comme on l'a dit tout à l'heure à la table ronde, on ne peut pas prier pour tout. Mais si on se concentre sur certains sujets que nous vivons, ou en tout cas qui nous touchent tous ensemble, ben, au moins on peut se focaliser sur ces sujets-là, on sera plus précis dans notre prière, on peut prier ensemble. Voilà. Donc pour conclure, Dieu désire une relation profonde avec son Église. Et plus la relation est profonde, plus cette communication entre Dieu et nous sera variée. Déjà par l'adoration, parce que nous découvrons à quel point Dieu est puissant, à quel point il est merveilleux, tous ses attributs sur Dieu. Aussi à travers la confession, parce que nous accueillons sa miséricorde, il nous fait grâce. Par la reconnaissance aussi, parce qu'on se remémore, on médite sur ce qu'il a fait pour nous. Et enfin, par la requête de prière, parce que nous nous reposons sur lui et nous pouvons compter sur sa force. Et nous sommes en train de goûter à la gloire de Dieu d'une façon unique quand nous participons ensemble au culte par la prière. Et demain, on aura un culte, il me semble, un peu spécial, avec une introduction de moments de prière, suivant un peu de ces principes que j'ai évoqués ici. Et avant de conclure, je vous invite à prier. Seigneur, tu es tellement merveilleux. Et Seigneur, trop souvent, nous nous précipitons sur nos sujets, on te fait part de nos requêtes, et après, on part. Et Seigneur, tu nous appelles à te prier selon ta parole et selon qui tu es, et qu'on puisse d'abord se focaliser sur qui tu es avant de se focaliser sur ce que nous demandons de toi. Et Seigneur, avant tout, Jésus a prié en disant « Notre Père », parce que tu es notre Père, tu es notre Papa. Tu as donné cet Esprit Saint en nous pour qu'il dise « Père, Papa ». Et Seigneur, pardon, parce que trop souvent, même moi le premier, Seigneur, nous avons du mal à avoir cette approche d'enfant de Dieu et du coup on se repose sur d'autres choses dans la vie et qui fait que nous perdons pied et que nous sommes instables. Et Seigneur, nous voulons aussi te demander pardon aussi pour toutes les fois où nous n'avons pas fait ta volonté et nous te prions aussi pour que tu nous aides à être reconnaissants pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et enfin Seigneur, nous te prions pour que tu nous donnes plus de foi pour encore plus prier selon ta volonté, Seigneur. Te prions ainsi au nom de Jésus. Amen.